Anne-Marie est là, bonjour.
Bonjour, il y a eu un problème technique, là, je ne sais pas c'est quoi.
On dirait, ça arrive, hein, dans les meilleures familles radiophoniques. Anne-Marie, vous avez lu 3 premiers romans.
Oui, qui font partie de la sélection québécoise 2025-26. Et puis, ben, présentement, depuis, je dirais, le mois de septembre, il y a des clubs de lecture qui se forment partout au Québec et qui lisent tous ces titres-là afin de finalement envoyer des notes très bientôt à l'Union des écrivains qui va compiler tout ça et il y aura un gagnant qui va être connu un petit peu plus tard, peut-être en mars. Alors, moi, j'avais déjà lu « Même pas morte » dont j'ai parlé, qui était aussi finaliste au prix Jeannette Bertrand au prix des collégiens, « Poudreuse » qui était lauréat du prix des collégiens, La mère des larves, j'en ai parlé il y a 2 semaines, je crois, qui était aussi finaliste au prix Jeannette Bertrand et au prix des collégiens. Amiante, qui a récolté quantité de prix. Rue Escali, qui avait le prix Robert Lich. Et là, je vous parle de Dorothée et les couleuvres. C'est un roman qui est paru aux éditions La Mèche en 2024, de 145 pages d'une autrice, donc, qui est à son premier roman, qui s'appelle Hélène Forêt, née à Montréal en 94. Elle est toute jeune. Et puis, elle fait de la musique aussi. Puis, présentement, elle vit à Kamouraska, où elle se consacre davantage à l'écriture. Alors, c'est un roman sur la quête de soi, la quête de sens, où on sent que l'héroïne, Dorothée, quitte la naïveté de l'enfance pour aller vers des questionnements qui l'amènent à la peur de ce que c'est devenir une adulte aussi, qu'est-ce que c'est le monde autour d'elle. Et puis, bon, ben, il est question bien sûr, de la nature, elle est très sensible à la nature, dans l'imaginaire, et dans une espèce de solitude, parce qu'à un moment donné, cet enfant-là est alité, et nous raconte que sa mère l'entoure de livres. Donc, elle vit comme une période, c'est les vacances, c'est l'été, mais c'est comme si elle ne profitait pas vraiment de la vie, qu'elle cherche, le sens de l'existence. Elle observe sa famille, ses voisins, il y a des sœurs cloîtrées pas loin dans le quartier où elle vit. Donc, c'est un roman contemplatif. Et je vous lis un extrait. « Moi, je ne voulais pas m'affirmer. Je rêvais de me diluer, ravaler le fait d'être quelqu'un, ravaler mon nom, être englouti de la tête aux pieds dans l'univers comme la pluie dans le lac Sainte-Marie. Moi, je voulais donner ma langue en offrande. » Ce style-là, ça m'a fait penser un peu à Régent Ducharme, avec ces personnages enfants qui veulent pas devenir adultes, c'est un peu comme ça. Alors c'est un très beau livre qui est un ton contemplatif et qui nous amène finalement à cette période où on quitte l'enfance et puis qui se questionne aussi sur l'univers. Elle vit en ville, là, mais justement, quand elle va chez ses grands-parents, elle est en campagne, elle observe les arbres. Et chaque jour, son père est un contemplatif comme elle et il observe les couchers de soleil. Donc, un très beau roman d'une jeune auteure à suivre.
À suivre. Dorothée, c'est quand même assez particulier comme prénom. Il me semble qu'on entend plus ça en 2025. Est-ce que ça a un lien avec le magicien d'Oz?
Oui, jusqu'à un certain point, oui, parce qu'il y a question de sorcière là-dedans. Oui, oui, c'est sans doute pas innocent.
Et le deuxième, je pense que vous l'avez beaucoup aimé, en particulier, que vous parlez, vous m'aviez dit que c'était votre coup de cœur. Une histoire silencieuse.
Oui. Oui, c'est un livre qui est aussi finaliste au prix de la Ville de Montréal, qu'on va connaître, je pense que c'est demain qu'on va connaître les lauréats, le titre lauréat. Alors, c'est écrit par Alexandra Boilard-Lefebvre, publié chez La Peuplade. C'est un livre de 237 pages, mais qui se lit, qui se dévore en quelques heures, parce que c'est pas toujours des pages pleines. Parfois, il y a juste quelques lignes, c'est des dialogues. C'est quelque chose aussi qui nous prend dès le début, puis qu'on veut vraiment pas quitter, vraiment pas. Alors, de quoi il s'agit? C'est que sur la photo de la page couverture, on voit une femme en robe de mariée, là, et sa mère, sans doute, installe sur sa tête le voile. Donc, on est dans les années 50-60, là, c'était 60. En fait, elle se marie en 61. Cette femme, elle s'appelle Thérèse. C'est la grand-mère de l'autrice qui s'appelle Alexandra Boilard-Lefebvre. Et puis, cette grand-mère-là, elle est morte très jeune. Elle avait 27 ans, 3 enfants. Elle vivait à Chicoutimi.
27 ans.
Et là, on ne sait pas grand-chose. Comment c'est arrivé? Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une enquête pour faire son récit de vie. Un peu la manière de plusieurs autrices qui ont fait ça récemment, je pense à La femme qui fuit, ou Anaïs Barbeau-Lavalette avait fait une enquête pour savoir c'était quoi la vie de sa grand-mère. Puis, bon, ben, il y a une tendance présentement, une quête, et ça nous amène à connaître la vie des femmes au début des années 60. ces femmes-là qui parfois avaient étudié, elle était éduquée, cette femme-là, elle avait un travail, elle travaillait avec des avocats, il paraît qu'elle était très brillante, tout ça, mais qui quittaient tout pour suivre leur mari, faire des enfants et puis finalement s'occuper de la maisonnée. Alors moi, je trouve que c'est très important que des jeunes d'aujourd'hui lisent ça parce que la vie a tellement changé qu'ils ne peuvent pas savoir que si c'est pas si loin que ça, c'est les années 60, mais la vie était très différente. Alors, il y a question du mariage, de la dépression, de la solitude de ces femmes-là, de la maladie mentale, des secrets de famille, des tabous, des jugements, de la difficulté, finalement, d'être une femme dans ces conditions-là quand tu as des enfants, puis que tu dois tout faire. Et puis, ben, ça correspond à une période où tout va changer 10 ans plus tard. Et donc, cette femme-là, qui est morte à 27 ans, en 1970, mère de 3 enfants, elle était dépressive et elle se serait suicidée. C'est ce qu'on comprend au fil des lectures, qu'elle aurait pris trop de barbiturique, mais qu'elle avait annoncé ça en allant. Elle allait régulièrement voir sa famille à Montréal et puis elle avait dit, si je fais une pierre tombale comme ça, si je meurs, je veux qu'il se passe ça. Puis, les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Là, ils ont dit, voyons, pourquoi elle parle de ça maintenant? Elle est bien trop jeune, elle n'est pas malade, rien, mais non, elle cachait quelque chose. Et quand on lit ça, on pense à des gens qu'on connaît. On pense à nos tantes, nos grands-mères. On pense à ces femmes qui ont finalement fait des sacrifices énormes. Puis, bon, ben, on ne peut pas faire autrement qu'être touché, qu'être bouleversé. Puis, au bout de tout ça, là, on n'a pas énormément de révélations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait des entrevues. Et elle dicte mot à mot les dialogues avec les gens qu'elle rencontre qui ont connu cette femme-là. Puis il y a des hésitations, des points de suspension, des répétitions. On voit là, qu'il y a une difficulté de parler de ça, d'aller chercher ça dans la mémoire. Il y a des tabous autour de ça. Elle révèle finalement des pans de sa vie, puis des quand dira-t-on. Il n'y a rien qui est absolument officiel. Il n'y a que Thérèse qui sait la vérité, puis elle n'est plus là pour le dire. Alors, c'est un très beau livre, très bien écrit, très émouvant, et qui témoigne d'une génération de femmes qui se sont mariées en renonçant à tout ce qu'elles avaient été pour s'occuper de la maisonnée. Elle fait référence aussi à une étude qui a été faite sur les housewives, et moi, ça m'a fait penser aussi à une espèce de tendance qu'il y a aux États-Unis de femmes qui veulent retourner au foyer puis qui pensent que c'est ça le rôle d'une femme. Là. Alors, on est vraiment dans un thème qui nous touche.
Pas juste aux États-Unis, malheureusement.
C'est ça, oui. Alors, très, très, très beau livre de cette fille qui a finalement passé des années à chercher le trou dans cette famille-là qui était laissée autour de sa grand-mère, le flou, pour en faire un portrait, mais qui est en même temps un portrait universel de probablement beaucoup de femmes dans les années 50-60, et je dirais qu'ils ont commencé à se libérer fin des années 60, début 70, alors c'est important de lire ça, de le faire connaître, et puis c'est une très belle lecture. Moi, j'ai commencé ça, et j'ai pas pris 24 heures pour le lire, là. J'étais plus capable d'arrêter, là. Je voulais savoir pourquoi elle a fait ça, là. Alors, c'est un très beau livre.
Une histoire silencieuse. C'est sa grand-mère, j'imagine, qu'on voit en page couverture,
oui,
en robe
exactement.
De mariée, une photo noir et blanc magnifique. Et
oui.
Vous aviez raison, le Grand Prix du Livre de Montréal sera remis demain, mais le livre Une histoire silencieuse ne fait pas partie des 5 finalistes. Il y a Howard de Maxime Brion, Les traits difficiles d'Évelyne de la Chenelière, The Capital of Dreams, Heather O'Neill, Soleil d'abandon, Mathieu Roland et Un carré de poussière d'Olivia Tapiero. Mais les 5 titres... dont fait partie Une histoire silencieuse d'Alexandra Boilard-Lefebvre font partie donc de la sélection du jury. Elle a été sélectionnée, mais pas retenue, mais
on va lire.
Une histoire silencieuse aux éditions La Peuplade. Et vous terminez avec le troisième qui vous a peut-être moins enchanté, Les pâtes. Drôle de titre. Christian Lambert, est-ce que c'est un roman gastronomique?
Pas du tout. C'est aux éditions La Maison en feu. C'est un petit roman de 200 pages et la page couverture, si on l'observe, là, tout est fait avec des pâtes. Il y a des spaghettis, des macaronis autour des fenêtres. Là. C'est très drôle parce
comme les enfants qui faisaient des colliers et qui en font peut-être encore là, avec les macaronis.
Puis des collages, on faisait ça aussi.
Oui.
Alors, l'auteur Christian Lambert, c'est quelqu'un qui travaille dans une municipalité, on ne sait pas trop laquelle, mais on dit qu'il écrit sur la collecte des déchets, l'accès au parc et au règlement de zonage. Donc, il est dans une municipalité, puis il a inventé une municipalité qui s'appelle Les Pâtes. Puis, cette municipalité-là vit des difficultés parce qu'ils ont une usine, évidemment, qui font des pâtes alimentaires. Mais là, il se passe des drames. Alors, ce qui fait qu'ils essaient de survivre, ils sont en mode survie, comme beaucoup de petites villes. Alors, dans ce village, j'appelle ça village, c'est une petite ville où tout le monde se connaît, tout le monde se juge, tout le monde s'observe, alors c'est difficile d'avoir des secrets. Et puis bon, ben, il y a des petites intrigues, parfois c'est un peu prévisible, il y a des fils qu'on voit, donc qu'on devine un peu ce qui va se dérouler. C'est une intrigue là, que moi j'aurais mis dans un roman adolescent. Là. Ça commence qu'on découvre des graffitis sur un mur, puis là il y a l'héroïne, c'est une jeune fille, une adolescente qui s'appelle Jeanne. Elle va faire une fugue et elle, sa mère, vit avec un homme qui est son beau-père, qui a un motel. Et puis dans le motel, on trouve un cadavre. Ça commence comme ça. Elle avait fugué avec un garçon qu'elle aime bien. Et ce garçon-là va voler de la drogue chez une femme en cachette. Ils vont fuir. Il va se passer plein de petits problèmes. Donc, on sent là-dedans les conflits entre les gangs. Il y a une gang qui s'appelle la Catelli Gang, Catelli comme les pâtes. Donc, bon, vous comprenez le lien. Il y a des cadavres qu'on trouve ici et là, dans les bassins de la ville. Bon, puis là, ben pour eux autres, c'est bon parce qu'ils disent que la municipalité, ça va lui faire de la publicité, ça va peut-être attirer des gens. Bref, le malaise que vivent les petites villes, on peut le sentir à travers ça. Mais je trouve que les personnages n'étaient pas assez développés, puis l'intrigue était un peu faible. Et bon, ben c'est pas parfait, là. Mais je comprends l'idée des jeux de mots sur les pâtes. Et puis bon, ben aussi ce qui se passe. Le gars, s'il passe sa journée là-dedans, ben, il est inspiré par ce qui s'appelle une municipalité. Mais ça ne m'a pas emballé plus bon, que ça. Là.
Les pâtes sont trop cuites.
Voilà, c'est ça, ça m'a collé.
Alors, c'est aux éditions de La Maison en feu par Christian Lambert, si ça vous intéresse quand même. Merci beaucoup, Anne-Marie. On va se retrouver la semaine prochaine. Est-ce que vous savez déjà de quoi vous allez nous parler?
Oui, j'aurai trois titres pour des gens qui ne sont pas nécessairement des lecteurs de littérature, là, mais de titres que je trouve intéressants à offrir et à s'offrir pendant les vacances.
Des histoires populaires.
Voilà.
OK. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Au revoir.